J'invite Pasteur Richard pour le message de la parole ce matin.
Bonjour, frères et sœurs. Ce n'est pas une grande vérité que je vais vous apprendre ce matin. Internet, la technologie, un très grand outil, c'est sûr, très utile, mais est au service aussi de tous ceux qui sont dans cette course à la popularité, à obtenir la gloire personnelle, la reconnaissance, même la puissance, même la richesse, si on le veut. Et c'est dans un sens une grande compétition, même mondiale, parce qu'avec YouTube et tous les outils de réseaux sociaux, on est capable d'avoir un auditoire mondial. Donc c'est vraiment une compétition, une course à la grandeur, et on mesure parfois même notre valeur au nombre de personnes qui nous suivent sur YouTube ou sur Twitter ou autre, le nombre d'amis qu'on peut avoir sur Facebook. Et certains utilisent cela comme un outil vraiment pour leur propre avantage. Mais ce qui est triste, c'est que même dans le monde chrétien, ça existe. Alors que la course à la grandeur devrait vraiment contraster avec l'humilité d'un serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et certains utilisent Internet et les réseaux sociaux, même dans le monde évangélique, pour leur propre avantage. Il y a des supposés évangélistes, de supposés guérisseurs même, qui font des miracles dont on peut douter, de supposés prophètes qui ont une révélation et qui deviennent, à cause de cela, riches et puissants. Au point d'être même parfois vénérés et servis. Ils promettent à ceux qui les suivent la santé, la richesse, la paix. Bien sûr, s'ils donnent de grosses offrandes à leur assemblée. Ils exploitent cette technologie-là, mais supposément au nom de Jésus. Il y a beaucoup de Alléluia, mais c'est eux qui en tirent profit. Nous devons être très méfiants, finalement, faire très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il a un message de la part de Jésus à transmettre, qu'il est vraiment un envoyé de Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un est appelé un grand homme de Dieu qu'il est réellement en train de servir Dieu. Il y a même quelques indices qui nous permettent de démasquer les faux prophètes, les faux évangélistes. Premièrement, s'ils ne croient pas à l'entièreté de la Bible, s'ils ne croient pas même à la base que la Bible est la révélation de Dieu complète, finale, déjà, c'est louche. S'ils prêchent ou annoncent toujours ce qui plaît aux oreilles, ce que les gens veulent entendre, c'est sûr qu'ils vont attirer beaucoup de gens à les écouter. Et les gens vont dire, « Wow, c'est un beau message qu'ils prêchent. » Mais le message de la Bible authentique n'est pas toujours pour plaire à nos oreilles. Surtout s'ils semblent aimer aussi la richesse, la gloire, s'il a un micro en or et qu'il se promène en limousine, c'est louche. Mais la Bible nous montre qu'est-ce que c'est qu'un véritable homme de Dieu, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Une des caractéristiques, c'est un homme qui marche humblement avec son Dieu. Un serviteur qui marche humblement avec son Dieu. Et c'est ce qui plaît à Dieu, finalement, l'humilité. C'est sûr qu'on parle souvent de ce sujet, hein, de l'humilité, de l'orgueil, mais la Bible en parle abondamment, parce que c'est un défi quotidien pour chacun de nous. Nous sommes tous à risque de tomber dans l'orgueil à tout instant de la journée, peu importe notre personnalité, et de marcher humblement à tous les jours, c'est un défi quotidien. Donc, c'est bon de se le rappeler. Dans notre étude du livre des Actes, ça fait déjà quelques semaines que nous sommes dans ce livre, on a vu le début de l'Église qui est née à la Pentecôte. Un début extraordinaire, là, où il y a eu 3000 convertis, ensuite ça a monté rapidement à 5000, et toute la ville même était étonnée de voir cette belle assemblée qui s'aimait, qui s'entraidait. Donc c'était spectaculaire. Pourtant, c'était quand même très humble comme situation. L'Église a été maintenue dans l'humilité, pas nécessairement parce qu'elle la recherchait, mais à cause de la force des choses, des événements. C'était la volonté de Dieu que l'Église soit maintenue dans l'humilité dès le début. Et dès le début, elle a reçu l'opposition des chefs religieux. Elle a été même déclarée comme illégale dans ses pratiques d'enseigner l'Évangile de Jésus-Christ. Même les apôtres ont été saisis, ont été en prison, ont été battus. Et on a vu même que c'est allé la persécution jusqu'à arrêter Étienne, l'un de leurs évangélistes, pour qu'il soit condamné injustement comme un criminel et mis à mort, lapidé devant tous sur la place publique. C'est pas très glorieux pour l'Église. Ça la maintient dans l'humilité. Mais c'est tout à la gloire de Jésus qui a permis que ces chrétiens persévèrent à travers cette opposition. Mais la persécution était tellement forte, on l'a vu, hein, que les chrétiens se sont finalement dispersés. Ils ne pouvaient pas rester à Jérusalem, parce que leur vie était en danger. Ils se sont dispersés dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. Mais on voit que ce grand mal qui a été commis contre l'Église était véritablement le plan de Dieu qui s'exécutait. Dieu n'était pas en train de perdre le contrôle face à l'opposition. C'était son plan qui s'exécutait. Et c'est merveilleux de voir ça. Bien que ça a coûté cher à l'Église, avec la perte d'Étienne, et on comprend que d'autres aussi, même si ce n'est pas tout mentionné, d'autres ont été capturés, peut-être même mis à mort, ont été en prison, et ont dû fuir loin. Les chrétiens dispersés, finalement, ont accompli le plan de Dieu, même si ce n'était pas prévu dans leur plan, parce que partout où ils allaient, ils évangélisaient de lieu en lieu. Finalement, ça a été la première expansion, le premier grand effort d'évangélisation que l'Église a connu en Israël, donc dans la terre, dans la Palestine. Et on voit que clairement, c'était le plan de Dieu que les chrétiens soient dispersés, parce que c'est seulement après la dispersion, après que le plus haut fort, le plus haut sommet de la persécution sous Saul qui était à la tête le plus zélé là, de ceux qui attaquaient l'Église, c'est après cela que le Seigneur Jésus est intervenu auprès de Saul pour le sauver, l'amener à lui, le convertir et même le recruter à son service. Et on peut se demander, mais pourquoi Jésus a attendu autant que cela? Mais c'était le plan de Dieu qui s'exécutait. Mais tout cela a maintenu l'Église dans une humilité qui était bonne. Et après que Paul s'est converti au Seigneur, il a même été baptisé, il a commencé à évangéliser, on a vu ce qui est arrivé. L'Église est devenue, a connu une période de paix. L'Église était en paix. C'est le dernier verset qu'on a étudié la semaine passée avec le pasteur Dominique, au verset 31 du chapitre 9. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, même si les chrétiens n'étaient plus dans la grande assemblée de Jérusalem, près du Temple, même s'ils étaient dispersés dans des petits groupes, dans les petits villages, dans les villes, même s'ils n'étaient plus en contact quotidien avec les apôtres, mais ça n'a pas empêché la croissance de l'Église. C'est impressionnant de voir cela. L'Église continuait de croître et poursuivait même grâce au travail du Saint-Esprit. Donc, la promesse de Jésus s'accomplissait. Lui qui a dit, « Je bâtirai mon Église. » À ce point-ci, les apôtres, on sait qu'ils étaient restés à Jérusalem. Tous les chrétiens se sont dispersés, mais les apôtres sont restés. Et l'attention de l'auteur, c'est-à-dire Luc, nous ramène l'attention sur Pierre, celui à qui Jésus a comme donné les clés pour ouvrir les portes du royaume, dans un sens figuré. L'attention retourne encore sur Pierre, qui a souvent été le représentant de ses confrères apôtres. Et je vous invite à lire avec moi dans Actes chapitre 9. Acte 9, on va relire à partir du verset 31. 31 jusqu'à la fin du chapitre. Acte 9, 31. Bon, Actes, c'est le cinquième livre du Nouveau Testament, tout de suite après les quatre évangiles. Actes, chapitre 9, à partir du verset 31. Donc, nous lisons, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tous ces lieux, descendit aussi vers les saints qui habitaient Lydda, ou Lydde. Il y trouva un homme du nom d'Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et qui était paralysé. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et toi-même arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit d'Orca. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade en ces jours-là et elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Jaffa, et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier, « Ne tarde pas à passer jusque chez nous. » Pierre se leva et il partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, il s'agenouilla et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi! » Alors elle ouvrit les yeux, et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jaffa, chez un certain Simon Corroyeur. Un court passage, mais on voit deux événements extraordinaires qui nous sont rapportés par Luc ici, qui se sont passés dans des petites villes de la Judée. Donc on va, c'est sûr, s'attarder à qu'est-ce qui s'est passé, étudier un peu ces deux événements, mais aussi noter qu'ils n'ont pas servi à la gloire de Pierre, mais on va noter l'humilité de Pierre à travers ses actions, qui est tout un modèle pour nous d'un serviteur de Dieu. Donc, Pierre, on voit d'abord qu'il parcourt la Judée. Donc, il est resté à Jérusalem, mais ce n'était certainement pas par paresse. Il se lève et il parcourt, peut-être que d'autres apôtres faisaient la même chose que lui, mais l'attention est sur Pierre. Et il parcourt les villes, donc il faisait beaucoup de voyages, là, de chemins. Au début de l'Église, les chrétiens n'avaient pas encore le Nouveau Testament écrit pour eux. Donc, ils avaient vraiment besoin d'entendre un enseignement oral qui pouvait être transmis par d'autres responsables de l'Église aussi, mais c'était très important au début là, que les apôtres puissent avoir un contact avec les chrétiens qui étaient maintenant dispersés. Et Pierre se lève et il marchait déjà en soi un signe d'humilité. Ce n'est pas les gens qui sont forcés de se déplacer vers lui, c'est lui qui se déplace. Et à l'époque, ceux qui étaient de conditions modestes comme Pierre, bien, se déplaçaient habituellement à pied. Bon, c'était fatigant de voyager comme cela. La distance entre Jérusalem et Lydda, c'est 30 kilomètres. Bon, c'est pas si pire, en voiture, il n'y a rien là, mais à pied, c'est quand même une bonne marche, surtout qu'il devait traverser des montagnes, mais on sait qu'il parcourait même toute la Judée, la Galilée. Donc, il a voyagé pour servir l'Église. Donc, on voit finalement un dirigeant qui sert l'Église. C'est lui, finalement, qui souffre pour aller servir. Et il se rend vers les saints de Lydda, c'est ce que le texte dit, ou de Lydde. Qui sont les saints? Bien, ceux qui sont familiers avec le langage du Nouveau Testament savent que les saints, c'est les chrétiens, finalement. C'est souvent utilisé comme un synonyme. Donc, ce sont ceux qui sont devenus des disciples de Jésus, qui se sont convertis, qui croient en Jésus. Ils sont appelés des saints. Donc, le Nouveau Testament nous appelle souvent des saints. Si vous croyez en Jésus, vous êtes saints. Je suis saint. Pas parce qu'on a nécessairement accompli des exploits, pas parce qu'on a accompli des miracles, pas parce qu'on est plus pur que d'autres, mais parce que Jésus nous a rendus saints, Jésus nous a sanctifiés. Tous ceux qui croient en Jésus, le Nouveau Testament dit que Jésus pardonne leurs péchés, les lave, les nettoie, les purifie comme de l'or purifié et les rend saints. Donc déjà nous sommes saints et les chrétiens sont séparés de la corruption du monde, bien qu'ils soient encore dans le monde. Et Dieu les considère vraiment comme son peuple saint. Saint au point où est-ce que pour l'éternité, les chrétiens pourront être dans la présence, dans le lieu très saint, la présence même de Dieu, pour l'éternité. Ça ne veut pas dire que les chrétiens ne pêchent plus. C'est sûr, vous et moi, là, si on se fait croire qu'on ne pêche plus, bien, on croit un mensonge. Ça nous arrive encore de pécher. Mais les saints ont un accès direct au trône de Dieu. Et nous pouvons, à tous les jours, s'il le faut, demander pardon au Seigneur, et il nous pardonne, parce qu'il nous considère vraiment comme son peuple. Nous sommes son peuple, et nous ne perdons pas même le titre de saint. Donc, nous ne sommes pas des pauvres pécheurs qui tentons de devenir saints. Nous sommes des saints, aux yeux de Dieu, qui malheureusement pêchent encore, mais qui ont accès toujours à son pardon, puisqu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, ces saints-là reçoivent Pierre, qui arrive chez eux, devait être content. Ce qui est étonnant, c'est qu'ici, les saints, qui sont appelés saints, ce sont des chrétiens, mais tous d'origine juive. Il n'y avait pas encore de gens de d'autres nations convertis, à part l'exception de l'eunuque éthiopien, dont on a vu il y a quelques semaines la conversion, mais c'était une exception. Mais l'Église était constituée de juifs convertis, devenus chrétiens. Et c'est eux qui sont appelés saints. Pourtant, dans l'Ancien Testament, tout le peuple d'Israël était appelé souvent le peuple saint de l'Éternel. Mais on voit clairement que depuis la venue de Jésus, depuis la venue de l'Éternel lui-même, qui est venu sur terre en son Fils, pour devenir saint, pour être membre du peuple de Dieu, il faut croire en Jésus. Il est le seul chemin. Qu'on soit né juif, qu'on soit né israélite ou non, c'est toute la même condition pour tout le monde. C'est de croire en Jésus, de se convertir. D'ailleurs, personne n'est saint de naissance. Ça ne se peut pas. Un jour ou l'autre, il faut se convertir, donner sa vie au Seigneur pour devenir saint. Donc, Pierre arrive chez ses saints. Il rencontre Aîné, un homme paralysé depuis 8 ans. C'est une condition vraiment difficile. Il y a beaucoup de conditions difficiles qui existent, là, mais d'être paralysé, c'est sûrement l'une des pires. Là. Au point où il ne peut même pas lui-même arranger son lit. Il est couché. Donc, il est vraiment dépendant de la bonté de ceux qui l'entourent, peut-être des membres de sa famille. Peut-être qu'il était chrétien, puisque Pierre est allé chez les chrétiens et qu'il a rencontré là Aîné. Aussi, il lui parle de Jésus. Donc, c'est sous-entendu qu'il connaît qui est Jésus-Christ. Mais le texte ne dit pas s'il est chrétien. Mais quoi qu'il en soit, il est vraiment dépendant de la bonté des gens qui l'entourent, même pour survivre. Donc, un état vraiment humiliant pour lui, de souffrance. Et Pierre sait ce jour-là, même si ce n'est pas écrit, Pierre sait, conduit par le Saint-Esprit, qu'il va être l'instrument de Jésus pour que Jésus accomplisse ce grand miracle dans la vie d'Aîné, au sein de cette assemblée. Et il dit à Aîné, « Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et toi-même arrange ton lit. » Wow, c'est un petit geste banal, mais un geste qu'il n'a pas été capable d'accomplir lui-même depuis 8 ans. « Lève-toi, arrange toi-même ton lit. » Et aussitôt, il se lève, complètement guéri. Bon, c'est un vrai miracle, ce n'est pas une supercherie. Et la nouvelle se répand. Là, c'est sûr que les gens sont vraiment impressionnés de cela. On comprend que Aîné était connu. Les gens savaient qu'il y avait un paralysé dans cette maison-là. Et là, tout à coup, ils peuvent le voir debout. La nouvelle a dû se répandre très vite. Et la nouvelle même se répand dans toute la ville et même dans la plaine qui s'étend jusqu'à Jaffa, qui est une ville située sur le bord de la mer Méditerranée. On a toute cette plaine-là, entendre la nouvelle. Et ils sont consolés finalement. Donc on voit que même si Jésus est au ciel, il est monté, on l'a vu lors de son ascension, il est toujours le même. Il a toujours cette même toute-puissance en lui, cette même compassion pour ceux qui souffrent. Même si Jésus, aujourd'hui, dans sa sagesse, ne déciderait pas de guérir quelqu'un qui souffre parmi nous. Mais ne doutons pas de son amour. Il l'a prouvé ce jour-là et ce témoignage reste pour toujours. Ayons foi qu'il est toujours le même Jésus tout-puissant qui nous aime, qui a compassion de nous. Et de toute façon, même si nous souffrons sur la terre, c'est un peu de temps. Jésus nous annonce que ce qu'il nous prépare est de loin supérieur, un endroit où il n'y aura plus jamais de souffrance, où plus jamais personne sera handicapé ou souffrant. Donc, on voit Pierre qui donne toute la gloire à Jésus, même lorsqu'il prononce ses paroles. À Aîné, il lui dit, « Jésus te guérit aujourd'hui. » Ce n'est pas lui-même qui prétendait pouvoir guérir. C'est vraiment Jésus qui a guéri. Et le résultat est tout à la gloire de Jésus aussi. Les habitants de Lydda et de la plaine se sont convertis au Seigneur. Quand il est question du Seigneur dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, il est question de Jésus. C'est vraiment qu'ils se sont convertis au Seigneur Jésus. Ils ne sont pas devenus des disciples de Pierre qui l'ont suivi, ils sont devenus des disciples de Jésus, des disciples du Maître de Pierre. Et nous savons que l'Évangile que Pierre annonçait, l'Évangile auquel tous les gens se sont convertis ce jour-là, lorsqu'ils ont été touchés par le miracle, parce que c'est sûr qu'ils ne se sont pas convertis simplement parce qu'ils ont vu un homme guéri. Ils se sont convertis à Jésus, donc ils ont entendu l'Évangile de Pierre, peut-être par Pierre directement ou par l'Église des chrétiens qui étaient déjà là. Mais cet Évangile-là prêché par Pierre, on en a vu des extraits dans le livre des Actes déjà. Ce n'est pas des paroles qui plaisent nécessairement aux oreilles. Si on peut résumer même une partie de la prédication de Pierre au jour de la Pentecôte, des paroles qui nous reviennent à l'esprit, c'est « Vous avez crucifié le Seigneur Jésus, vous avez crucifié le Messie. Repentez-vous. » Repentez-vous, c'est vraiment une exhortation forte. Ça veut dire, la vie que vous menez présentement, elle est mauvaise. Vous êtes dans le péché, vous êtes dans l'erreur. Repentez-vous pour croire à la vérité et changer de vie. C'est vraiment pas un discours qui est fait pour attirer les foules. Mais le Saint-Esprit était à l'œuvre et a touché les cœurs au point où ce que toute la ville s'est convertie. Ça ne veut pas nécessairement dire chacune des âmes vivantes de la ville, mais une très grande majorité, peut-être même littéralement tous les habitants de la ville. Ils sont devenus chrétiens, tout à la gloire de Jésus. Et ils sont devenus saints, héritiers de la vie éternelle. Ils n'ont pas eu à accomplir des œuvres ou fait des rites de purification. Ils ont simplement mis leur foi en Jésus. Et si ce n'est pas le cas dans votre vie, si vous ne pouvez pas dire avec certitude « Je suis saint », peut-être c'est parce que vous n'avez pas encore fait ce pas de foi. Croyez en Jésus, c'est lui qui a fait l'œuvre. Il ne vous demande pas d'en faire pour vous purifier. D'ailleurs, ça ne servira à rien. Le salut ne s'obtient pas par les bonnes œuvres, par le changement de vie. Il s'obtient par la foi en Jésus. Croyez en Jésus, donnez-lui votre vie, faites-lui confiance. Et il va vous sanctifier. Vous allez devenir saint et héritier de la vie éternelle. Donc, c'était le message de l'Évangile à cette époque. C'est encore le même message aujourd'hui. Donc, on voit que l'intervention de Pierre, même si c'était un acte, une démonstration de grande compassion pour cet homme qui souffrait, et une démonstration de la compassion de Jésus, le but n'était pas seulement le bien-être de Aîné. Le but était le salut des gens de cette région. On voit que le plan de Dieu est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait se l'imaginer. Lorsqu'on prie le Seigneur Jésus, on voit notre vie, on peut voir peut-être la vie de ceux qui nous entourent, on prie pour eux. Mais le plan que Dieu a pour nos vies individuelles est aussi un plan collectif pour nos vies qui sont toutes interreliées. Et dans la sagesse de Dieu nous dépasse complètement. On voit ici pourquoi cet homme-là devait être paralysé pendant 8 ans. Tout à coup, c'est peut-être devenu clair même pour lui. Il fallait qu'il y ait des chrétiens dans cette place qui annoncent l'Évangile, qu'un jour Pierre vienne me guérir et que un grand nombre d'hommes et de femmes soient sauvés. Parfois, on ne comprend pas non plus pourquoi des événements arrivent dans nos vies, là, et c'est normal. On peut pas comprendre toute la sagesse de Dieu. Mais ne doutons pas que c'est pour notre bien. Ne doutons jamais de la bonté de Dieu, qu'il nous donne ou qu'il reprenne. Qu'il nous donne la santé ou même qu'il reprenne notre santé. Qu'il donne la vie ou même qu'il reprenne la vie. Parce que l'exemple qui suit montre que un grand malheur avait frappé une servante de Dieu, Tabitha, qui habitait Jaffa, une ville qui est pas très loin de Lydda, c'est à 15 km environ. Jaffa est juste sur le bord de l'eau, dans la plaine de Saron. Et là aussi, il y avait des chrétiens, ils sont appelés des disciples. Et il y avait une femme nommée Tabitha, ce qui se traduit en grec « Dorca ». Bon, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose de plus, là. Mais si on traduit en français, ça veut dire « gazelle ». Mais une gazelle, à quoi ça vous fait penser? C'est un animal gracieux, doux, toujours agréable à regarder, mais aussi une gazelle, bon, peut-être je suis dans l'erreur, mais je m'imagine une gazelle qui court, qui gambade, qui saute, qui peut même monter des collines, qui semble infatigable. Et ça décrit bien Tabitha. Elle était une femme qui faisait beaucoup d'œuvres bonnes, qui donnait en au monde, c'est-à-dire qu'elle avait à cœur le confort, même de secourir ceux qui souffraient, donner pour les pauvres, et tous les gens de la place en bénéficiaient, à commencer par les frères et les sœurs, les veuves même qui servaient avec elle. Et on sait qu'elle avait cousu beaucoup de tuniques, de vêtements, donc elle se procurait le tissu, elle passait du temps, elle peinait à confectionner des vêtements, et les gens pouvaient les vêtir. C'était précieux à l'époque des vêtements, plus qu'aujourd'hui. C'était dispendieux. Et malheureusement, malgré le fait qu'elle était zélée pour le Seigneur, elle est tombée malade, elle est même décédée, elle est morte. Un exemple clair qui montre que la maladie et même la mort ne frappent pas seulement ceux qui seraient punis par Dieu. Nous allons tous un jour passer de toute façon par la mort. Mais ça demeure quand même un grand malheur. Et les chrétiens de Jaffa savaient ce qui s'était passé à Lydda, donc ils ont envoyé deux deux messagers parmi les disciples, aller chercher Pierre, comme le convoquer. Le supplier, mais dans un sens, c'est comme le tirer, là. Ah oui, il faut que tu viennes, ça presse. Viens-t'en à Jaffa. Et on voit encore une marque d'humilité chez Pierre. Il se lève et il les suit. Il est convoqué, mais il répond à leur appel. Sûrement qu'il y avait d'autres choses privées à l'horaire, là. Mais il répond pour les servir. Encore une fois, on voit l'humilité de Pierre. Et il répond, il s'en va vers eux, puis de toute évidence, ils avaient foi que Jésus pouvait faire quelque chose pour Tabitha. C'est des détails dans le récit, mais ils avaient lavé le corps, ils l'avaient disposé dans la chambre haute, mais elle n'avait pas encore été embaumée de parfum ou préparée pour la sépulture, pour le tombeau. Et s'ils demandaient que Pierre vienne, c'est vraiment parce qu'ils espéraient une intervention, voire même une résurrection. On voit vraiment la foi de ces chrétiens. Peut-être que certains d'entre eux ont vu Jésus de leurs yeux pendant son ministère, l'ont connu. Mais ils croyaient, en tout cas, que si Jésus voulait la ramener, il le pouvait. Et Pierre accepte, il se rend vers eux. Il monte dans la chambre, il voit Tabitha et il fait sortir tout le monde pour être seul avec elle. Donc, ce n'est pas un spectacle qu'il fait. C'est vraiment une intervention. Il s'agenouille dans un profond respect devant Dieu et il prie le Seigneur. Finalement, il lui demande que le Seigneur intervienne. Et le Seigneur accepte. Wow, quelle joie! Et on voit toute la compassion du Seigneur, la compassion pour les chrétiens en deuil. On ne peut pas dire que Tabitha souffrait maintenant, là. Elle était en repos, mais toute l'assemblée qui souffrait. Et Jésus a eu compassion pour eux. Et il transmet ses paroles même à Pierre. Et Pierre lui dit, comme Jésus le faisait même lors de son ministère, « Tabitha, lève-toi. » Et simplement sur ces paroles, le souffle de vie revient en elle. Elle ouvre les yeux, elle s'assoit, elle voit Pierre. Et Pierre la prend par la main. Et l'aide à se lever, il est debout et il la présente vivante à ses frères et sœurs. Wow, quel sujet de joie et quelle grande démonstration de la puissance de Jésus. Encore une fois, la nouvelle s'est répandue très rapidement. Là, c'est déjà un homme paralysé, que humainement, c'est impossible de guérir quelqu'un qui est paralysé, là, qui a été guéri. C'est un miracle vraiment impressionnant. Mais là, quelqu'un a ramené des morts. Wow! Il fallait vraiment le voir pour le croire. Et finalement, de nombreux habitants de Jaffa se sont convertis au Seigneur, ont cru à cet évangile qui avait été annoncé. Encore une fois, on voit que la compassion de Jésus qui l'a poussé à ramener Tabitha vers les siens, c'était pas seulement motivé par la compassion. Encore une fois, l'objectif de Jésus, c'était de sauver les âmes perdues. Le Nouveau Testament nous replace souvent en perspective, là, dans la bonne vision des choses, c'est-à-dire que le bien-être de nos frères, notre bien-être, même notre vie, c'est sûr que c'est précieux, et Dieu le comprend et il a cela à cœur. Et lorsqu'on prie pour nos proches, pour leur bien-être, pour leur santé et pour leur vie, c'est une bonne chose. Mais rappelons-nous que ce qui est de plus précieux, c'est la vie éternelle, c'est d'être sauvé de la mort éternelle. Donc le plan de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Il y a des passages qui nous le rappellent, que, comme un verset dans Romains, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvenons-nous que le bien le plus précieux, c'est notre salut, c'est notre sanctification. Ça devrait même être notre principale demande, hein, lorsque nous prions le Seigneur, de voir nos proches être sauvés de la mort éternelle. Puis cette résurrection-là de Tabitha prouve encore une fois que la promesse de Jésus, elle est vraie. Il nous promet qu'un jour, nous serons tous ressuscités. Lorsqu'il reviendra nous chercher, tous nos frères et sœurs qui sont déjà décédés, et nous aurons un nouveau corps. Nous pourrons être élevés ensemble et accueillir notre Seigneur qui vient nous chercher. C'est un nouveau corps qui sera incorruptible, qui ne connaîtra plus jamais la maladie ni la mort. Et le passage se termine par une simple indication qui montre encore l'humilité de Pierre. C'est pour ça que même si ce n'est pas le sujet principal du passage, c'est l'attitude qui se dégage de tout ce passage-là. Après que Pierre ait accompli cela, il va habiter, bien, premièrement, il décide de rester un certain temps à Jaffa. Cela fut connu de tout Jaffa, beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jaffa, alors que ce n'était pas prévu non plus dans son horaire. Et il se rend resté chez un certain Simon, corroyeur. Un corroyeur, c'est un... Je ne sais pas si ça existe encore ce métier-là, sûrement. C'est quelqu'un qui travaille le cuir, c'est-à-dire des peaux d'animaux. Mais on sait, d'après la loi dans l'Ancien Testament, que si on touche à un cadavre, on est considéré impur. Donc, un corroyeur, c'est quelqu'un, finalement, qui doit toucher à des cadavres d'animaux régulièrement pour tanner la peau et fabriquer des souliers ou toutes sortes de choses avec le cuir. Donc, généralement, les corroyeurs dans une ville étaient vus comme des gens impurs et on se tenait loin d'eux. Donc, les gens plus sains, par exemple, un pharisien, là, n'aurait pas été mangé chez un corroyeur. On voit toute l'humilité de Pierre qui va habiter chez lui. Il n'a rien à prouver, mais son humilité nous montre sa sincérité, son authenticité dans son ministère. Il est vraiment un grand homme de Dieu par son humilité. Et c'est tout à l'honneur de Jésus, puisque c'est Jésus par son Saint-Esprit qui a transformé Pierre. On lit dans les Évangiles que Pierre n'était pas un homme nécessairement humble de nature. Ce n'est pas parce qu'il était plus humble que les autres de naissance. Au contraire, même il était souvent celui qui était le plus emporté, qui représentait les autres. Il a lui-même été impliqué dans des chicanes avec les autres apôtres pour savoir qui d'entre eux était le plus grand. Il voulait être assis à côté de Jésus au ciel. Et il a souvent été emporté par l'orgueil. Et même, dans un sens, l'orgueil a joué la nuit où il a renié Jésus 3 fois. Et par la suite, il l'a sincèrement regretté. Il a pleuré amèrement. Mais toutes ces épreuves-là et l'action du Saint-Esprit dans son cœur l'ont transformé. L'ont rendu vraiment un serviteur humble et utile pour son maître. C'est un Pierre transformé qui nous écrit dans sa première lettre. Et je vous invite à tourner avec moi dans 1 Pierre, chapitre 5. C'est une lettre même de Pierre qu'il écrit aux chrétiens, qui a dû circuler dans les assemblées. La première lettre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre 5. Et Pierre était très conscient du défi que c'est pour chacun d'être humble, de marcher humblement avec Dieu. Et c'est l'exhortation qu'il fait dans ce passage ici. 1 Pierre 5, versets 1 à 6. Et il exhorte d'abord les anciens, qui doivent être des modèles, mais il exhorte toute personne dans l'assemblée à l'humilité. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ, participant à la gloire qui doit être révélée, donc elle est, qui est encore cachée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, donc pas pour un avantage financier personnel, là, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Donc la gloire n'est pas une mauvaise chose, mais la gloire est future. Un jour elle sera révélée, un jour nous l'aurons. Pour l'instant, nous devons marcher dans l'humilité. Verset 5 maintenant. De même, jeunes gens, et on comprend dans le contexte, finalement, c'est tout le reste de l'assemblée. Il y a les anciens, et les jeunes gens, c'est tout le reste de l'assemblée. Soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, donc de l'humilité dans les rapports entre les frères et sœurs. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous de lui, de tous vos soucis, sur lui, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Dieu est bon. Et c'est lorsque nous sommes des serviteurs humbles que nous pouvons vraiment devenir des instruments utiles dans les mains du Maître. Notre orgueil peut être un obstacle, mais un serviteur humble pourra être utile pour l'évangélisation, pour l'édification de l'Église. Et au chapitre précédent, chapitre 4, toujours dans 1 Pierre, nous allons terminer avec ce verset, 1 Pierre 4, versets 10 et 11. Puisque chacun, donc chacun, chaque chrétien dans l'Église, a reçu un don c'est-à-dire une capacité par le Saint-Esprit. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié, et non nous-mêmes. Donc, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mais prions un instant. Je vous invite à courber, que nous courbons nos têtes humblement devant notre Maître. Seigneur Jésus, tu vois nos cœurs. Tu vois combien nous sommes prompts à nous enorgueillir, à croire que même l'accès que nous avons à la vérité, à ta parole de Dieu, est de par notre propre mérite, de par notre intelligence. Mais il n'y a rien que nous avons qui ne nous a été donné par toi. Même nos capacités, même notre amour pour toi, même notre fidélité, notre persévérance, et même notre humilité, tout vient de toi. Et nous voulons te glorifier pour cela, nous t'en remercions. Mais tu vois combien nous sommes à risque à tout instant de tomber dans l'orgueil, dans cette course à la popularité, à l'avantage personnel. Protège-nous de cela, Seigneur. Préserve-nous. Enlève les tentations qui pourraient se présenter sur notre route. Purifie-nous. Pardonne-nous même si présentement nous sommes dans cette course. Humilie-nous. Et s'il le faut, même permet la souffrance dans nos vies pour nous apprendre l'humilité pour notre bien. Que toi seul sois glorifié. Nous avons hâte de te voir, Seigneur Jésus, pour qu'enfin nous puissions participer à ta gloire, que toute la souffrance soit terminée. Mais en attendant, Seigneur, garde-nous dans la sainteté, dans la marche humble à ton service. Nous te demandons ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen.